Chapitre 32. Daeman avait sélectionné 9 personnes, 5 hommes et 4 femmes, pour l'assister dans sa mission, à savoir faire le tour des 309 axes en activité, afin de recenser les communautés déjà envahies par cet ébos et prévenir les autres du danger. Mais il décida d'attendre le retour d'Arman, d'Anna et de Pétir avant de se mettre en route. D'après ce qu'avait dit Arman à Ada, il comptait revenir au plus tard pour le déjeuner. Une heure après le déjeuner, on n'avait toujours pas vu le Sony. Daeman attendit. Il savait qu'Ada et les autres étaient inquiets. Éclaireurs et ramasseurs de bois avaient repéré des mouvements au nord, à l'est et au sud d'Ardis, comme en prélude à une attaque de Voynix, et il ne voulait pas priver les défenses de 10 éléments avant le retour d'Arman et de ses compagnons. En milieu d'après-midi, il n'était toujours pas là. Les gardes de faction sur les miradors et les remparts ne cessaient de scruter les nuages bas dans l'espoir d'apercevoir le Sony. Daeman devait partir et il le savait. Arman avait raison, cette mission d'alerte et de reconnaissance était des plus urgentes. Mais il attendit une heure de plus. Puis deux. Si illogique que cela paraisse, il avait l'impression que ce serait abandonner Ada que de partir avant le retour d'Arman et du Sony. Elle serait bouleversée s'il était arrivé quelque chose à Arman, mais la communauté d'Ardis lui survivrait. Si le Sony était perdu, cependant, leur destin à tous risquait d'être scellé lors de la prochaine attaque de Voynix. Ada s'était affairée durant tout l'après-midi, ne sortant que de temps à autre pour aller scruter le ciel en haut du Cubilo d'Anna. Daeman, Tom, Cyrus, Loes et quelques autres se tenaient à proximité, mais n'osaient pas lui adresser la parole. Les nuages s'assombrirent et il recommença à neiger. L'après-midi, déjà bref, se transformait en terrible crépuscule.
« Bon, j'ai affaire en cuisine »,
dit finalement Ada en serrant son châle sur ses épaules. Daeman la regarda s'éloigner. Il en fit autant au bout de quelques secondes, gagnant sa chambre mansardée et fouillant dans son armoire à vêtements jusqu'à ce qu'il ait trouvé ce qu'il cherchait. La thermopeau verte qu'il avait rapportée de la vallée sèche et le masque osmotique que lui avait donné sa vie quelque temps plus tard. La thermopeau avait été souillée et déchirée, déchirée par les griffes de Caliban, souillée par son sang et celui de Daeman, puis par la boue dans laquelle Arman et lui s'étaient ramassés suite à leur atterrissage forcé du printemps dernier. Et si le nettoyage avait eu raison des taches, c'était la thermopeau elle-même qui avait tenté de ravauder les déchirures. Elle y était presque arrivée. La couche isolante verte était quasiment invisible par endroits, laissant voir la trame argentée de la couche moléculaire proprement dite, mais ses fonctions chauffage et pressurisation n'étaient pas affectées. Pour le vérifier, Daeman s'était faxé dans un nœud inusité situé à 4200 mètres d'altitude, correspondant à un lieu inhabité et battu par les vents, connu sous le nom de Pike's Peak. La thermopeau l'avait protégé du froid et le masque osmotique lui avait fourni assez d'air pour respirer. Il glissa l'un et l'autre dans son sac à dos, à côté de ses gourdes et de sa réserve de carreaux d'arbalète, et descendit de sa chambre pour aller rassembler son équipe. Un cri retentit au dehors. Daeman se précipita dans la cour en même temps qu'Ada et une bonne moitié de la maisonnée. Le Sony se trouvait à 1500 mètres de distance. Après avoir effectué une descente tout en finesse et tourné au sud-ouest du manoir, il se mit à tanguer, piqua du nez, se redressa, puis adopta une trajectoire erratique et parut vouloir s'abîmer devant la palissade côté sud. Mais le disque d'argent se redressa à la dernière minute, non sans la heurter au passage, 3 sentinelles se jetèrent à terre pour l'éviter, puis laboura le sol gelé, rebondit d'une hauteur de 10 mètres, retomba en projetant des mottes de terre un peu partout, rebondit à nouveau et vint s'immobiliser après avoir creusé un sillon dans la pelouse. Ada était à la tête de la foule qui fonça vers la machine volante. Daeman arriva devant celle-ci quelques secondes après son ami. Pétir était le seul occupant du Sony. Il gisait dans la couchette centrale avant, étourdi et le visage en sang. Les 5 autres couchettes étaient bourrées d'armes. Daeman reconnut plusieurs versions du fusil à fléchette naguère rapporté par Odysseus, mais aussi des pistolets et d'autres armes qui lui étaient inconnues. Ils aidèrent Pétir à s'extraire du Sony. Ada déchira sa tunique pour nettoyer le sang qui maculait le front du jeune homme.
« Je me suis cogné la tête quand le champ de force est désactivé », expliqua celui-ci. « J'ai été stupide. J'aurais dû le laisser atterrir en pilotage automatique. Je lui ai dit manuel quand on est sorti des nuages. Je croyais pouvoir me débrouiller. »«
Crétin !»«
Chut !» fit Ada. Tom, Cyrus et d'autres lui donnèrent un coup de main.
« Tu nous expliqueras tout ça à la maison, Pétir, »
reprit-elle.
Les sentinelles, regagnez vos postes, s'il vous plaît. Les autres, reprenez les tâches en cours. Loès, rassemble quelques hommes et rangez ses armes et ses munitions. Peut-être y en a-t-il d'autres dans les compartiments de stockage du Sony. Apportez le tout dans le grand hall, s'il vous plaît. Merci.
Dans le parloir du château d'Ardis, Pétir narra ses aventures à une trentaine de personnes pendant que Ciri et Tom désinfectaient et pansaient ses plaies. Il leur décrivit le Golden Gate assiégé par les Voynix, puis l'apparition d'Ariel. Alors il a fait noir dans la bulle pendant plusieurs minutes, le Buck Hiver était totalement opaque à la lumière du jour et quand il est redevenu transparent, Arman était parti.
Où cela, Pétir?
Demanda Ada d'une voix posée.
Je n'en sais rien. Anna et moi avons passé 3 heures à fouiller le complexe. On a trouvé ses armes dans une salle de musée qu'elle n'avait jamais vue avant aujourd'hui. Mais il n'y avait aucune trace d'Arman, ni de cette créature verte nommée Ariel.
Où est Anna? Demanda Daeman.
Elle est restée là-bas.
Pétir était penché en avant et tenait dans ses mains sa tête bandée.
On savait qu'on devait ramener le Sony à Ardis le plus vite possible, sans parler de cette cache d'armes. Ariel l'avait reprogrammé pour qu'il fasse le voyage retour un peu moins vite. Et il m'a fallu 4 heures pour revenir ici. D'après lui, ou elle, Odysseus passerait au minimum 72 heures dans sa crèche, et Anna voulait rester auprès de lui pour savoir s'il allait s'en tirer. Et puis on a trouvé plein d'autres armes, il faut absolument retourner là-bas. Et Anna a dit qu'on la récupérerait au prochain voyage.
Les Voynix ne risquaient pas de pénétrer dans les bulles? Demanda Loès. Pétir secoua la tête, grimaça de douleur.
Aucune chance. Ils n'arrivaient pas à s'accrocher au Buck Hiver, et il n'y avait ni entrée ni sortie en état de marche, exception faite de la membrane semi-perméable du garage, et elle s'est refermée derrière le Sony quand je suis reparti.
Daeman acquiesça d'un air pensif. Il se rappelait le Buck Hiver anti-friction du rampeur à bord duquel ils avaient traversé le bassin méditerranéen et la membrane semi-perméable dans laquelle on accédait à l'île orbitale de Prospero.
Et puis, Anna dispose d'une 50aine de fusils et de pistolets à fléchettes,
reprit Pétir avec un sourire en coin.
On les a transportés dans des coffres et des couvertures. Avec ça, elle peut venir à bout d'une armée de Voynix. En plus, la salle où se trouve la crèche d'Odysseus est isolée du reste du complexe.
On ne va pas renvoyer le Sony là-bas ce soir, pas vrai?
Demanda une femme nommée Salas.
Je veux dire...
Elle jeta un coup d'œil vers le ciel qui virait au noir.
Non, il n'en est pas question,
dit Ada.
Merci, Pétir. Va à l'infirmerie et repose-toi un peu. Nous allons déplacer le Sony devant la maison et inventorier les armes et les munitions que tu nous as rapportées. Tu as peut-être sauvé Ardis.
Chacun retourna à ses obligations. Mais on entendait résonner des voix excitées. Loès et ses assistants, qui savaient manier les fusils à fléchettes naguère rapportés par Odysseus, testèrent les nouvelles armes. Elles semblaient toutes en état de marche, et aménagèrent un stand de tir afin de former les nouveaux fusiliers. Daeman supervisa le transport du Sony. Une fois les contrôles activés, la machine s'éleva à 1 mètre d'altitude et flotta de façon tout à fait normale. Une demi-douzaine d'hommes la guidèrent jusqu'à son emplacement habituel. Les compartiments de stockage situés à l'arrière, où Odysseus rangeait ses lances quand il allait chasser l'oiseau terreur, était effectivement bourré de fusils. En fin d'après-midi, alors que les dernières lueurs du jour achevaient de s'estomper, Daeman alla retrouver Ada qui se tenait non loin de la fournaise d'Anna. Il ouvrit la bouche, puis se rendit compte qu'il ne savait pas quoi dire.
« Vas-y, »
lui lança Ada.
« Et bonne chance. »
Elle l'embrassa sur la joue et le poussa vers la maison. Alors que la nuit tombait sur un paysage déjà enneigé, Daeman et ses 9 équipiers achevèrent de charger leurs sacs de carreaux d'arbalète, de biscuits, de fromage et de gourdes. Après avoir envisagé de prendre quelques fusils à fléchettes, ils avaient opté pour les armes qui leur étaient familières. Puis ils parcoururent les 2 kilomètres qui séparaient le château du pavillon Fax. Ils effectuèrent une partie du trajet au petit trot. Des ombres se mouvaient sous les arbres, mais ils ne virent aucun Voynix s'avancer à découvert. On n'entendait aucun oiseau, alors qu'il s'en trouvait toujours quelques-uns pour pépier même au cœur de l'hiver. Les 20 sentinelles de faction au pavillon les accueillirent avec joie, pensant qu'ils venaient les relever, puis manifestèrent leur contrariété en apprenant la nature de leur mission. Personne ne s'était faxé au cours des dernières 24 heures, et ils avaient vu des Voynix, plusieurs vingtaines de Voynix, se déplacer dans la forêt en direction de l'ouest. Ils savaient qu'il serait impossible de défendre le pavillon contre une attaque en règle et tous souhaitaient regagner le château avant la nuit. Daeman les dissuada de bouger, vu la présence de Voynix dans la forêt, et leur assura que le Sony viendrait faire un tour par ici dans les prochaines heures. Si jamais ils étaient attaqués et s'ils réussissaient à envoyer un messager à Ardis, le Sony leur amènerait des renforts par groupe de 5. Daiman considéra l'équipe qu'il avait rassemblée. Ramis, Kaman, Dorman, Cole, Edid, Kara, Siman, Oko et Ella, et lui dispensa ses ultimes instructions. Chacun avait reçu une liste de 30 codes, rangés par ordre croissant, vu que l'éloignement des Neufax n'était pas déterminant, et chacun devait visiter les 30 pavillons correspondants avant de regagner Ardis. S'il tombait sur un site envahi par la glace bleue et par ses ébosses aux mains multiples, il devait le noter, observer la situation et repartir le plus vite possible. Pas question de chercher l'affrontement. Si tout avait l'air normal, il devait donner l'alerte à la communauté concernée, puis passer au nœud suivant. Même en tenant compte d'éventuels délais, leur mission ne demanderait qu'une douzaine d'heures au maximum. Vu la faible population de quelques-unes des communautés, elle se réduisait à un hameau entourant un pavillon fax, certaines étapes pouvaient encore être abrégées, en particulier si les lieux étaient déserts. Si l'un d'eux n'avait pas regagné Ardis dans un délai de 24 heures, il ou elle serait considéré comme perdu et un autre serait envoyé dans les 30 nœuds qu'on lui avait assignés. Ils n'étaient autorisés à interrompre le cours de leur mission que s'ils venaient à être grièvement blessés ou à apprendre une information vitale pour le salut d'Ardis. Dans ce cas, ils avaient ordre de revenir au plus vite. L'homme nommé Siman parcourut d'un œil inquiet les prés et les collines environnants. La nuit était déjà noire. Il ne fit aucun commentaire, mais Daeman n'eut aucun mal à déchiffrer ses pensées. Quelle chance aurait-il de survivre à ces 2 kilomètres si les Voynix grouillaient dans les parages? Daeman fit signe aux sentinelles de se rapprocher. Si l'un des membres de son équipe revenait avec des nouvelles importantes, et si le Sony n'était pas disponible, 15 d'entre elles devraient l'escorter jusqu'au château. Mais il ne fallait à aucun prix laisser le pavillon sans défense. « Des questions ?» demanda-t-il à son équipe. 9 ovales blancs dans la pénombre. Aucun ne bougea. « Partons dans l'ordre de notre premier code, » dit-il. Il ne perdit pas de temps à leur souhaiter bonne chance. Ils se faxèrent l'un après l'autre, disparaissant après avoir composé leur code sur le disque placé en haut de la colonne. Daeman s'était réservé les 30 derniers codes, parmi lesquels celui de Paris-Cratère et des nœuds qu'il avait déjà contrôlés. Mais lorsque vint son tour, il composa le code peu connu correspondant à son refuge tropical. Il arriva en plein jour. Le lagon était bleu-vert, l'océan virait à l'indigo. À l'ouest se massaient des nuages noirs annonciateurs de tempête, et à l'est, le soleil éclairait le sommet de nuages dont il avait récemment appris le nom, des stratocumulus. Après s'être assuré qu'il était seul, Daeman se déshabilla et enfila sa thermopeau, laissant la cagoule reposer sur sa nuque et le masque osmotique pendre au bout de sa lanière. Puis il remit son pantalon, sa tunique et ses chaussures, fourrant ses sous-vêtements dans son sac à dos. Il passa en revue le contenu de celui-ci. Des bandes de tissu jaune récupérées à Ardis, 2 marteaux piolets que lui avait forgé Rayman, le meilleur ouvrier d'Ardis après Anna, des rouleaux de cordes, un stock de carreaux d'arbalète. Il aurait voulu filer à Paris-Cratère, mais on était en pleine nuit là-bas, et Daeman avait besoin de la lumière du jour. Le soleil ne se lèverait que dans 7 heures. Le temps pour lui de visiter la majorité des 29 autres nœuds. Il en avait déjà contrôlé plusieurs après avoir fui Paris-Cratère la dernière fois. Kiev, Belinbad, Ulan-Bat, Chom, le domaine de Loman, Drid, Fuego, la tour du Cap, Devi, Mantou et Satel-le-Haut. Seuls Chom et Ulan-Bat étaient infectés par la glace bleue, et il espérait que la situation n'avait pas évolué. Et même s'il lui fallait 12 heures pour avertir les communautés des autres nœuds, le soleil brillerait sur Paris-Cratère lorsqu'il finirait par s'y faxer. C'était à Paris-Cratère qu'il avait l'intention d'agir. Daeman arrima son lourd sac à dos, empoigna son arbalète, retourna au pavillon, dit adieu en silence à la brise tropicale et au murmure des palmiers, et tapa le premier code sur sa liste.